Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le Conseil français du culte musulman et la Grande Mosquée de Paris ont chacun annoncé hier la création prochaine de leur propre Conseil national des imams, instance voulue par le gouvernement pour restructurer l'islam de France. Nous y reviendrons avec le président du CFCM, Mohamed Moussaoui. Quel bilan après la conférence internationale sur la Libye vendredi à Paris? Le but était d'encourager le processus qui doit permettre l'organisation d'une présidentielle le 24 décembre, puis des législatives un mois plus tard. Notre invité sera Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. 4 soldats maliens ont été tués hier dans une attaque imputée aux djihadistes, une attaque au nord-est de Bamako. La peintre et poète libanaise Etel Adnan est morte. Elle était âgée de 96 ans. Au micro de Radio Orient, elle était notamment revenue sur son apprentissage du français à Beyrouth. Nous écouterons cette archive. La France a réinstauré ce lundi le port du masque obligatoire à l'école primaire sur l'ensemble du territoire. Le pays est confronté à un rebond des contaminations par le Covid-19. L'Algérie recevra ce mardi le Burkina Faso lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de football. Coup d'envoi à 17h ce mardi. Le Conseil français du culte musulman et la Grande Mosquée de Paris ont chacun annoncé la création prochaine de leur propre Conseil national des imams. La Grande Mosquée et les 3 fédérations qui ont quitté le bureau exécutif du CFCM en mars ont annoncé leur volonté de fonder ce conseil qui doit labelliser les imams exerçant en France, comme souhaité par l'exécutif dans le cadre de sa lutte contre l'islam radical. Le CNI sera créé lors d'une assemblée générale dimanche prochain. Le CFCM a réagi en annonçant lui aussi la création d'un Conseil national des imams. Il appelle l'ensemble des instances départementales du culte musulman à se réunir en congrès le 12 décembre prochain pour sa mise en place effective. Son président, Mohamed Moussaoui.
Le Conseil français du culte musulman s'est penché sur la question de la création du Conseil national des imams depuis plus d'une année. Et novembre 2020, il avait déjà validé l'ensemble des documents et des statuts de ce conseil, de ce futur conseil. Il l'a même présenté au président de la République vers le 18 novembre 2020. Depuis, malheureusement, il y a eu cet épisode de la signature de la charte des principes de l'islam de France qui a plongé, on va dire, le Conseil français du culte musulman dans une crise qui l'a empêché effectivement de réaliser et de concrétiser ce projet avant. Aujourd'hui, force est de constater malheureusement que cette crise n'a pas encore fini, puisque une coordination de 4 fédérations démissionnaires du CFCM ont décidé d'une façon unilatérale de récupérer le travail qui a été fait par le Conseil français du culte musulman et appelle à la création d'un conseil. Ce conseil, malheureusement, il n'aura pas la légitimité de l'instance représentative du culte musulman. En parallèle, le Conseil français du culte musulman lui-même, avec les membres qui restaient en son sein, ont continué à travailler sur le projet. Et nous avons tenu compte surtout du retour des imams dans toutes les régions. Il y avait une volonté ferme de vouloir faire participer les imams directement. En d'autres termes, le projet initial, c'était les fédérations qui désignaient quelques membres de leur fédération pour siéger dans ce conseil. Et de fait, malheureusement, ils n'avaient pas la légitimité de l'ensemble des imams de France. Nous avons donc souhaité au sein du CFCM de remédier à cette lacune, et nous avons donc lancé une large concertation auprès des imams au niveau des départements et des régions, raison pour laquelle il y a eu des créations donc de groupements d'imams et aussi de mosquées au niveau de chaque département. Et c'est ces groupements que nous appelons vers mi-décembre à se réunir en congrès pour décider de la création effective du Conseil national des imams et de déterminer les critères, un certain nombre de choses qu'il faut améliorer sur les documents qui ont déjà été préparés par le Conseil français du culte musulman en novembre 2020, il y a une année à peu près.
Et il s'agit de combattre la radicalisation. Est-ce la mission principale de ce Conseil national des imams?
D'abord, je pense que lors de la création des instances représentatives du culte musulman, ces instances ont axé leur attention sur les gestionnaires de mosquées. Et nous savons que, au-delà des présidents des associations qui gèrent les mosquées, les imams jouent un rôle central dans la vie culturelle des musulmans de France. Et justement, ces imams sont mobilisés pour lutter contre le radicalisme, pour promouvoir un islam de juste milieu, des valeurs fondamentales qui nous permettent de vivre en paix et en harmonie avec nos concitoyens de toute conviction. Donc il était temps que ces imams puissent s'organiser, puissent avoir un espace de discussion, de dialogue. Et donc cet espace-là, il faut le créer. Ça permettra également effectivement de préserver la fonction de l'imamat, de personnes qui peuvent s'autoproclamer imam alors qu'ils n'ont pas les conditions requises, voire même parfois, plus dangereusement, des personnes qui prônent des idéologies mortifères, qui puissent accéder à la fonction de l'imamat. Nous devrions les empêcher de le faire et assainir d'une manière certaine l'accès à cette fonction. L'immense majorité des imams de France sont des imams bien formés, qui sont dans la lutte contre le fondamentalisme, contre l'extrémisme, mais nous ne voulons pas prendre de risque de laisser des personnes s'autoproclamer imams, et c'est pour cette raison que le Conseil national des imams jouera également ce rôle de régulateur de la fonction de l'imamat.
Des avancées ont été réalisées ces dernières années concernant justement la formation des imams?
Tout à fait, je pense que de nombreuses formations sur la connaissance du contexte dans lequel ils officient, par le biais des diplômes universitaires que les pouvoirs publics ont mis. Il y a aujourd'hui, on a dépassé les trentaines de diplômes qui engagent plusieurs universités publiques et privées pour former donc les futurs cadres religieux. Il y a aussi des formations théologiques prises en charge par les fédérations musulmanes. Et je pense que ce travail de longue haleine, il commence à donner ses fruits, mais il faudrait effectivement, je pense, permettre à des imams d'aller encore plus loin en leur permettant de mutualiser leurs moyens, leurs efforts, leurs réflexions dans le cadre de centres, de conseils, au niveau d'abord local, au niveau du département, puis au niveau régional et puis au niveau national.
Le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui. 4 soldats maliens ont été tués hier dans une attaque imputée aux djihadistes au nord-est de Bamako. Cela s'est passé près de la frontière avec la Mauritanie. L'armée a aussi fait état de 14 blessés et de 6 assaillants abattus. Un général et 4 soldats de l'armée syrienne ont été tués hier dans l'explosion d'une bombe. C'est arrivé dans l'est de la Syrie. Les talibans ont lancé un assaut contre plusieurs caches présumées de la branche locale du groupe État islamique, une opération dans la province de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. L'un des fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, a déposé sa candidature à la présidentielle prévue le 24 décembre prochain en Libye. Ces élections présidentielles puis législatives sont censées tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué en 2011. Une candidature au surlendemain de la conférence internationale sur la Libye. Le bilan de cette réunion internationale avec Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Le verre est à moitié rempli puisque initialement cette conférence n'avait pas autant d'objectifs que ceux qui ont été annoncés, en tout cas qui ont été présentés comme des annonces assez inattendues, inespérées même de la part du président Emmanuel Macron. Premièrement, cette conférence s'inscrivait comme une séance de rattrapage des 2 précédentes conférences d'ailleurs. Les 2 précédentes conférences étaient des conférences à l'initiative allemande, hein, janvier 2020, puis le 23 juin 2021. Donc c'était la 3e conférence de ce format. La chancelière Angela Merkel a rappelé que désormais la configuration de la triangulation diplomatique, Mario Draghi pour l'Italie, Emmanuel Macron pour la France et la chancelière allemande et son successeur Olaf Scholz pour l'Allemagne, fonctionnait. Donc d'une certaine manière, c'était une façon de rappeler que les Européens sont unis, en tout cas qu'il n'y a plus de dissonance entre la politique étrangère française et italienne, puisque c'était là que la friction était la plus forte. Donc le formalisme était d'importance. Ensuite, la présence d'une 20aine de chefs d'État et de gouvernement était inespérée, mais d'une certaine manière, c'est parce que ces chefs d'État et de gouvernement étaient invités en même temps pour le Forum de Paris pour la paix qu'ils se sont déplacés. Il n'y aurait sans doute eu moins de chefs d'État et de gouvernement s'il n'y avait pas eu ce forum. Troisième élément, même si cette conférence est une réussite, en tout cas il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu de décrochage, ou en tout cas de dissension. Il y a néanmoins un aléa qui n'a pas été dépassé, l'absence remarquée des trois personnalités importantes, en l'occurrence le président Recep Tayyip Erdogan, et puis l'absence remarquée de Vladimir Poutine, qui n'avait délégué que son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La troisième absence, et non des moindres, est celle d'Abdelmadjid Tebboune, mais là c'est plus une configuration de dissonance entre la France et l'Algérie dont il faut tenir compte.
Pourquoi ces élections à venir, l'élection présidentielle puis les élections législatives, sont-elles un élément fondamental pour la sortie du chaos de la Libye?
Parce que le processus de l'alternance politique passe par un processus électoral. Le gouvernement donc d'union nationale, qui a succédé au gouvernement d'accord national, après un vote qui a réuni les 74 délégués libyens qui se sont réunis à Genève en février 2021, n'a fait que nommer un gouvernement intérimaire, un conseil présidentiel composé de 4 hommes sous la direction de Mohamed Al-Mefi et puis un premier ministre, Hamid Dabeiba, mais avec une légitimité qui évidemment est limitée dans le temps. D'ailleurs, la levée de l'option de la candidature éventuelle d'Hamid Dabeiba n'a pas été totalement soulevé, puisque Hamid Dabeiba n'a pas dit qu'il serait candidat, mais il n'a pas dit non plus que quelqu'un qui appartient à l'actuel gouvernement ne pourrait ne pas l'être. Donc il y a évidemment un processus dès la fin d'un cycle, 10 ans, en l'occurrence c'est la raison pour laquelle le scrutin électoral doit se tenir symboliquement en 2021, 10 ans après la chute de Muammar Kadhafi, les Libyens veulent revenir à un élément de stabilité qui fait que ces élections sont non seulement les premières élections libres depuis la chute de Muammar Kadhafi, mais surtout depuis que Muammar Kadhafi a pris le pouvoir en 1969. Donc il y a une volonté d'inscrire l'alternance politique à travers un processus politique électoral qui passe par la case électorale.
Seif al-Islam, le fils du dirigeant libyen déchu Muammar Kadhafi, a présenté hier dimanche sa candidature officielle à l'élection présidentielle. Comment cette candidature est-elle susceptible d'être perçue par l'opinion libyenne?
Tout dépend de l'endroit où l'opinion libyenne se situe. Il me semble qu'actuellement, quelques heures après l'annonce de cette candidature, il y a d'une part ceux qui se satisfont ou qui sont heureux de cette candidature, qui somme toute était logique dans la filiation donc de ce que beaucoup perçoivent comme une nécessaire nostalgie par rapport à la chute de Muammar Kadhafi, et donc la lignée historique, la filiation Kadhafi. D'ailleurs, le maréchal Khalifa Haftar incarnait cette filiation. Peut-être qu'il y a là soit un hiatus qui va être grandissant entre les deux hommes, par rapport à cet héritage kadhafien, ou alors il y aura un ticket gagnant, ou un ticket qui pourrait être gagnant entre le maréchal Haftar et Saïf al-Islam Kadhafi. Deuxième élément, la candidature de Saïf al-Islam advient dans une zone particulière, qui est la zone qui est un petit peu délaissée dans l'opposition frontale entre ceux qui soutiennent l'Est libyen, donc les amis du maréchal Haftar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie, singulièrement la France, même si elle ne le valide pas comme tel, et puis bien évidemment la légitimité autre internationale, celle de l'ONU, qui a son siège à Tripoli. L'annonce à Sebha, dans la capitale des Toubou, donc la milice puissante, parce que puissamment armée, dans la région du Grand Fezzan, est assez agile de la part de Saïf al-Islam, en montrant que non seulement il est l'héritier de la lignée Kadhafi, non seulement qu'il est un homme des milices, qu'il veut se présenter comme n'étant ni l'homme de Tripoli, enfin ni avec le soutien de Tripoli, ni avec le soutien de Benghazi, mais avec évidemment des acquaintances avec les uns et les autres, évidemment cela pourrait faire sens. Néanmoins, dans les heures qui ont suivi l'annonce de la candidature, on a certes entendu de la liesse ou de la ferveur populaire, plusieurs sondages, mais il faut les prendre avec beaucoup de précautions, font de Saïf al-Islam celui qui serait le plus à même de gagner les élections présidentielles si elles ont bien lieu le 24 décembre, 60 et 80% de sentiments, d'appréciation favorable, mais il y a des voix dissonantes, très dissonantes. Khalid el-Meshri, le président du Haut Conseil d'État, proche des frères musulmans, a publiquement dit tout le mal qu'il pensait de cette candidature, ouvrant une autre perspective. Il se peut que Saïf al-Islam, qui a finalement décidé de faire son annonce malgré les menaces qui pesaient sur sa candidature pourraient tout simplement être invalidées par la commission électorale qui, je le rappelle, siège encore à Tripoli.
Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Les législatives au printemps prochain au Liban, plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales pour les Libanais de l'étranger. La période d'inscription s'achèvera le 20 novembre prochain. La mort de la peintre et poète libanaise Etel Adnan, elle était âgée de 96 ans. Etel Adnan est née en 1925 à Beyrouth d'un père syrien musulman et d'une mère grecque chrétienne. Parmi ses ouvrages, ce roman cite Marie-Rose sur la guerre civile libanaise, roman traduit dans une dizaine de langues et distingué par le prix France Pays Arabes. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, salue la mémoire d'une âme poétique et colorée. Suite à son décès, je vous propose d'écouter cette archive au micro de Radio Orient. Elle était notamment revenue sur son apprentissage du français à Beyrouth.
Moi, j'ai appris le français à Beyrouth du temps du mandat, dans les années 30. Et à ce moment-là, le français était enseigné contre la langue arabe. C'est-à-dire que dans les écoles religieuses où les enfants allaient, on punissait les enfants qui parlaient arabe. C'était quand même, je trouve, une position extrême. Les choses ont un peu changé, bien sûr, mais il reste comme un sous-entendu dans l'enseignement du français à Beyrouth, du moins, que la langue arabe n'est pas adéquate pour le monde moderne, qu'on ne peut pas faire, par exemple, des mathématiques en arabe. Je trouve cela aberrant de dire cela d'une langue dans laquelle l'algèbre a été inventée, de grands mathématiciens comme Al-Kindi ou Avicenne lui-même, ont fonctionné, ou Omar Khayyam, c'était de grands mathématiciens. Quand il y a eu l'apport à l'astronomie par les astronomes arabes, donc on ne peut pas dire de l'arabe ou d'aucune langue d'ailleurs qu'elle n'est pas adéquate à la pensée.
La peintre et poète libanaise Etel Adnan, décédée hier à l'âge de 96 ans, elle avait accordé plusieurs entretiens à Radio Orient, dont cette archive. La France a réinstauré ce lundi le port du masque obligatoire à l'école primaire sur l'ensemble du territoire. Le pays est confronté à un rebond des contaminations par le Covid-19. Il a également renforcé ses contrôles aux frontières avec la Belgique. Toujours sur le front de la crise sanitaire, cette première en Europe, l'Autriche ordonne le confinement des personnes non vaccinés. L'Algérie recevra ce mardi le Burkina Faso lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, coup d'envoi à 17h. Les Fennecs qui se sont facilement imposés ce vendredi face à Djibouti, 4-0. Ils joueront un dernier match décisif pour espérer disputer les barrages de qualification. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h et Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération, porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot et conseiller régional, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.